RFI 7h30, à Paris 6h30 en temps universel. Le journal, Sébastien Duhamel.
Et cette question à la une, un dialogue direct va-t-il s'installer entre le gouvernement de RDC et l'AFCM23? Il semblerait en tout cas que des délégations soient en ce moment à Doha au Qatar qui mènent la médiation. Mais secret total autour de cet effort diplomatique, vous l'entendrez. Riek Machar qui aurait préparé une rébellion au Soudan du Sud. Voilà la justification du gouvernement hier pour expliquer son placement en résidence surveillée. Le vice-président sud-soudanais qui est donc placé sous résidence depuis mercredi. Alors que le Kenya tente une médiation dans ce dossier également. Moussa Dadis Camara gracié en Guinée. L'ex-chef de junte condamné l'an passé pour crime contre l'humanité. Décision du général Mamadi Doumbouya qui évoque des raisons de santé. Les États-Unis qui suspendent la délivrance de visa au Tchad pour 90 jours. Le sommet Nutrition for Growth qui s'est refermé hier à Paris. 27 milliards de dollars de promesses de dons engrangés pour lutter contre la malnutrition. Et puis rencontre en fin d'édition avec l'un des disparus des JO de Paris 2024. L'athlète congolais, le nageur Freddy Mayala. Le gouvernement de RDC et l'AFCM23 vont-ils donc établir un dialogue direct? Rien de certain. Et bien malin celui qui pourrait répondre, car on sait en effet que, selon nos informations, des délégations sont à Doha, au Qatar, en ce moment même, où se sont récemment rencontrés le Qatar à la surprise générale Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Mais autour de cette médiation qatarienne, rien ne fuite, ou presque, Pauline Azidi. On peut dire que le secret est savamment entretenu.
À Kinshasa, pour plusieurs diplomates en poste, c'est cette discrétion qui a conduit au succès de la rencontre du 18 mars dernier. Pas d'annonce avant le rendez-vous, seuls quelques proches des deux chefs d'État étaient dans la confidence. Résultat, il a fallu attendre le communiqué du Qatar pour confirmer l'entrevue. Quand une information fuite, le rendez-vous tombe déjà un peu à l'eau, estime en effet un spécialiste du dossier. Une méthode qui tranche avec celle des autorités angolaises qui jusqu'ici étaient en charge de la médiation. Les deux rendez-vous ratés de Luanda en décembre et en mars avaient, eux, été officiellement annoncés à l'avance sur les réseaux sociaux et les parties avaient confirmé ou infirmé publiquement leur participation. Cette fois-ci, des sources confirment que les deux délégations sont bien à Doha, que des échanges avec la médiation qatarienne sont en cours. Enfin, selon nos informations, il y aurait encore des préalables à régler avant de pouvoir réunir autour d'une même table les différents acteurs. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Une rencontre certaine en tout cas, hier, dans l'Est congolais, à Bunia, le chef-lieu de la province de l'Ituri, les états-majors de la RDC et de l'Ouganda se sont retrouvés. Les deux pays engagés conjointement dans l'opération Shuja, mise en place initialement pour lutter contre le groupe ADF. Mais il est question ici d'étendre son mandat également à la milice Codeco, active justement en Ituri. Et pendant ce temps, dans la province voisine du Nord Kivu, un cessez-le-feu signé à Goma par l'AFCM23 qui a pris le contrôle de la ville en janvier et par des représentants de la SADC. Cet accord prévoit l'évacuation de la force de la communauté de développement d'Afrique australe telle que l'ont décidé les chefs d'État de l'organisation à Harare. Ces derniers ont en effet acté il y a deux semaines la fin du mandat de la SAMI-DRC déployée dans l'Est congolais depuis décembre 2023.
RFI à Djouba, 90.4 FM.
C'est la première tentative de médiation au Soudan du Sud depuis la résurgence des tensions et surtout depuis le placement en résidence surveillée mercredi du vice-président Riek Machar. Cette tentative vient du Kenya en la personne de Raila Odinga, dépêché hier à Djouba par le président Ruto. Raila Odinga qui n'a pas pu rencontrer Riek Machar mais qui dit avoir eu une discussion détaillée et constructive avec son rival, le président Salva Kiir. Alors que le gouvernement sud-soudanais s'exprimait pour la première fois justement sur le sort du vice-président, Florence Mietto, le porte-parole et ministre de l'Information, a accusé Riek Machar d'avoir préparé une nouvelle rébellion.
Michael Makuei a affirmé que des rapports de renseignement et de sécurité prouvent que Riek Machar a orchestré les attaques contre l'armée gouvernementale dans la région du Haut-Nil, dans le nord-est du pays, depuis début mars.
Au lieu d'ordonner à ses forces de se retirer, Riek Machar a ordonné à ses forces d'attaquer. Et résultat, la garnison de Nasir a été prise le matin du 4 mars.
Michael Makuei a ensuite déroulé la liste des incidents sécuritaires qui se sont amplifiés tout au long du mois. Selon lui, lui, Riek Machar en est responsable. La mort du général Majourdak lors de son évacuation de Nasir par l'ONU le 7 mars serait le résultat des directives de Riek Machar, selon le porte-parole, tout comme les combats qui ont éclaté en début de semaine dans des centres d'entraînement des forces de l'armée unifiée prévues par l'accord de paix. Des troubles qui se sont dangereusement rapprochés de Djouba.
En se basant sur ça, et afin de sauver l'accord de paix, son Excellence, le président Salva Kiir a ordonné que le vice-président Riek Machar soit placé en résidence surveillée, le temps de conduire des investigations.
Cette décision a pourtant ravivé les craintes d'un retour de la guerre civile. Hier, Antonio Guterres a lancé un nouvel appel au dialogue entre Salva Kiir et Riek Machar. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Moussa Dadis Camara, officiellement gracié en Guinée, lui qui fut à la tête de la junte ayant dirigé le pays entre 2008 et 2009, lui qui fut condamné l'an passé pour crime contre l'humanité pour avoir commandité le massacre d'opposants à l'époque dans le stade de Conakry. Il bénéficie aujourd'hui d'une grâce présidentielle décidée par le chef de la junte actuelle, le général Mamadi Doumbouya. Le décret Mouktarba évoque des raisons de santé.
Une décision à la surprise générale annoncée hier soir à la télévision nationale, 8 mois après la condamnation de Moussa Dadis Camara. Arrêté fin 2022 à son retour de Ouagadougou où il a passé 13 ans d'exil forcé, l'ancien chef du CNDD a été condamné en juillet dernier à 20 ans de prison pour sa responsabilité de commandement dans le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Le décret, lu par le ministre secrétaire général de la présidence, indique que la grâce présidentielle est accordée, je cite, pour raison de santé et que le ministre de la Justice est chargé de son application. Fin de citation. Depuis sa condamnation, Moussa Dadis Camara est détenu à la prison civile de Conakry. La fragilité de son état de santé n'a jamais été évoquée. Le 28 septembre 2009, au moins 157 opposants au régime de Dadis Camara avaient été tués et plus de 109 femmes violées au cours d'un meeting contre sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Quelques mois plus tard, en décembre 2009, Moussa Dadis Camara cédait le pouvoir après avoir échappé à une tentative d'assassinat. Mouktarba Conakry, RFI.
Le temps de la campagne électorale qui débute aujourd'hui au Gabon. 8 candidats en lice pour la présidentielle du 12 avril qui refermera la transition. Une campagne et un scrutin sur lequel on reviendra plus en longueur après ce journal avec notre invitée, la professeure Florence Bernot. En cette année électorale au Cameroun également, les évêques du pays s'adressent aux citoyens et aux autorités dans une lettre. La conférence épiscopale du Cameroun y appelle à un processus transparent, juste et apaisé. Ça, on y reviendra dans notre prochaine édition africaine dans une petite heure. Aucun rendez-vous pour les visas ne peut être pris à l'ambassade des États-Unis à N'Djamena. Voilà le message que les internautes tchadiens peuvent lire sur le site de l'ambassade américaine. Depuis le 25 mars, en effet, les États-Unis ont suspendu la délivrance de visas aux ressortissants tchadiens pour une durée de 90 jours. C'est le ministère tchadien des Affaires étrangères qui nous l'a appris par communiqué. À N'Djamena, justement, Nadia Ben Mafoud.
Cette suspension temporaire concerne les visas touristiques, d'études et d'affaires, mais ne s'applique pas aux demandeurs de visas diplomatiques ni à ceux en possession d'une carte de résident. Les tchadiens peuvent néanmoins effectuer une demande de visa depuis l'ambassade américaine d'un pays tiers. Dans un communiqué officiel, Ibrahim Adam Mahamat, porte-parole du ministère tchadien des Affaires étrangères, dit regretter cette décision et affirme sa volonté de collaborer avec les autorités américaines pour clarifier les raisons de cette suspension afin qu'elle soit levée rapidement. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, d'autres pays sont concernés par cette évolution des règles d'entrée aux États-Unis. Il y a une dizaine de jours, une liste a fuité indiquant la mise en place de restrictions d'entrée sur le territoire américain pour les ressortissants de 43 pays, dont 22 États africains. Ils sont répartis en 3 catégories selon les restrictions imposées. Le Tchad figure sur la liste jaune, la moins contraignante des 3. Les pays qui y sont mentionnés auraient un délai de 60 jours pour rectifier ce que Washington considère comme des manquements sécuritaires. Mais pour le moment, ces informations n'ont pas été confirmées officiellement par le gouvernement américain. Nadia Ben Mafoud, N'Djamena, RFI.
27 milliards de dollars pour lutter contre la malnutrition. Voilà la principale annonce du sommet Nutrition for Growth qui s'est refermé hier à Paris. Des promesses de dons saluées par la société civile, mais elle espère qu'il ne s'agira pas d'un énième effet d'annonce. Une plateforme de suivi, le Global Nutrition Report, a été mise en place pour s'en assurer. La société civile, on peut le dire, qui était très mobilisée pour ce rendez-vous, Christina Okello.
Youssef Ali Hassan, avocat tchadien de formation, s'est engagé par conviction pour un meilleur accès à l'alimentation après avoir vu des gens mourir de faim.
Au Tchad, la malnutrition est quand même assez présente et on constate que ces derniers temps, c'est exacerbé par les changements climatiques. Tantôt, au nord du Tchad, il y a la désertification qui accentue l'accès à la nutrition. Et tantôt au sud, on en assiste à des inondations qui font en sorte qu'il n'y a pratiquement plus de récolte. Alors qu'en réalité, il existe maintenant des grains qui sont résistantes à la sécheresse, par exemple.
Les jeunes présents à Paris ont lancé un appel à l'action. Ils demandent d'être acteurs du changement à travers l'éducation nutritionnelle, l'agriculture durable et une meilleure inclusion de ces sujets dans les politiques publiques. Aude-Brice Coudrin, militant béninois.
On a également discuté avec des étudiants qui ont une couche assez vulnérable. Le plus important pour eux, c'est de manger beaucoup, donc ils ne font plus vraiment attention à la qualité de ce qu'ils mangent. Lors de notre dialogue communautaire, nous avons discuté avec des jeunes qui ont proposé des solutions, notamment la mise en place sur les universités de plusieurs structures de restauration et également l'installation de jardins communautaires pour qu'ils puissent avoir les moyens de s'offrir une alimentation saine et équilibrée.
Le message est clair, l'accès à une alimentation suffisante ne doit pas être un privilège mais un droit. À la clôture du sommet, les jeunes ont rappelé leur mot d'ordre « Nothing for us without us, rien pour nous sans nous ».
Christina Okello, le monde vu à travers l'objectif du photographe Daniel Pengrafer au Chundaro. Résidente en Serbie, le Nigérian revient sur ses terres pour une exposition à Lagos. Renaissance Reformed, à voir dans la galerie de Temple Muse, Moïse Gomis.
Sourire malicieux d'éternel adolescent, Daniel Pengrafer au Chundaro savoure. Après 4 années d'exil professionnel en Serbie, revenir au Nigeria pour exposer ses dernières œuvres est pour lui le test idéal. Surtout à Lagos, où les critiques sont franches et directes. Daniel Pengrafer au Chundaro.
Je ne simule pas les sentiments que je mets sur la toile, dans la sculpture ou dans n'importe quelle autre création. Pour moi, il faut élargir son horizon, il faut accumuler beaucoup d'expériences de vie. Une fois que vous aurez acquis ces connaissances, vous serez en mesure de créer des choses, vous ressentirez toujours le besoin constant de créer.
Au cœur de son exposition, Oshundaro revisite notamment une fameuse sculpture, celle d'Artémis, une divinité dans la mythologie grecque. La tête de la déesse de la chasse est remplacée par celle de Pals, l'avatar de Daniel Pengrafer. Un lévrier précède cette femme statuée, arc à la main.
Huntress est donc une invitation au monde de la création. Il s'agit de la fabrication d'une nouvelle princesse Diana. Pour moi, c'est comme si je pouvais me mettre dans sa situation pour ressentir ce qu'elle a éprouvé durant sa vie. C'est une allégorie pour illustrer sa réflexion et sa transformation. C'est donc un défi pour les spectateurs, arriver à changer les certitudes sur elle. Pour moi, Huntress est l'une de mes pièces les plus intimes.
Diplômé d'un master européen des beaux-arts, Daniel Pengrafer n'est plus l'étudiant timide de Lagos et à 27 ans, c'est avec de solides certitudes que Oshundaro repousse ses limites créatives.
Il était l'un des disparus des JO de Paris. Comme plusieurs autres athlètes, le nageur du Congo-Brazzaville, Freddy Mayala, avait décidé de ne pas rentrer au pays. À 24 ans, il s'est installé dans l'ouest de la France, en Bretagne, où il vient d'obtenir par la Cour nationale la validation de son asile. Victor Missistrano a recueilli sa réaction.
J'étais rempli de joie parce que avant ça, j'étais dans les craintes, quoi. Donc, du coup, j'étais rempli de joie quand j'ai reçu la réponse qui était positive. Ça va me permettre de bien poursuivre ma carrière, de bien exercer la natation sans avoir un problème avec qui que ce soit, quoi. J'ai l'accès à la piscine librement. Je pouvais plus vivre ce que je vécis avant quand j'étais dans mon pays, quoi. Donc, du coup, j'étais très rempli de joie. Je me sens très soulagé, je peux le dire. En fait, je pourrais bien mieux faire par rapport à ce que je faisais avant. Le but serait peut-être que je puisse chercher à rejoindre l'équipe olympique des réfugiés, c'est possible. Essayer de voir si on pourra atteindre les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Au niveau du Congo, le problème de la natation, c'est juste la piscine. C'est pas qu'il n'y a pas de piscine, il y a la piscine, mais ils ne veulent pas donner l'autorisation aux athlètes de s'entraîner. Et il y a aussi le fait qu'on n'a pas la liberté d'expression, quoi. On ne peut pas tout le temps dire ce qui ne va pas dans le truc pour éviter d'être dans des ennuis, quoi.
Le nageur du Congo-Brazzaville, Freddy Mayala, qui a donc vu sa demande d'asile acceptée en France. Notre matinale continue avec Julien Coquelle-Rohem.